Jacques Lucas, bonjour.
Bonjour.
Docteur Jacques Lucas, puisque vous êtes médecin, vous avez une longue carrière derrière vous et vous avez notamment exercé pendant longtemps à l'Ordre national des médecins. Vous avez porté les sujets de télémédecine et de e-santé pendant de longues années avant d'être nommé président de l'Agence nationale du numérique en santé. Vous avez également officié plusieurs années et vous avez récemment démissionné de cette instance. Vous nous expliquerez peut-être pourquoi. Un très grand merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer un peu brièvement pourquoi les techs en santé sont un sujet essentiel pour les professionnels de santé, à la fois médicaux et paramédicaux?
C'est un sujet essentiel parce qu'ils sont confrontés à une innovation qui s'est accélérée soudainement, qui existe depuis longtemps. Et cette confrontation, elle les prend de plein fouet parce que jusqu'à présent, ils avaient préféré un peu l'ignorer. En réalité, de dire « oh là là, c'est pas demain la veille que tout ça va rentrer dans l'exercice médical ». Donc actuellement, il y a de forts facteurs de résistance au changement, ce qui est assez habituel d'ailleurs lorsqu'il y a des innovations, et en particulier avec l'arrivée de l'intelligence artificielle qui commence à les inquiéter, puisqu'elle peut remettre en cause le primat médical. On voit d'ailleurs que les moyens d'intelligence artificielle pourraient être utilisés éventuellement directement par les patients, ce qui pose quand même un problème de nature éthique, notamment pour ce qui peut être relatif à une consultation d'annonce, mais également pour les autres professionnels de santé, et en particulier le corps infirmier. Si le corps infirmier a des outils comportant de l'intelligence artificielle, dans l'orientation des patients, c'est un sujet qui est de brûlante actualité, d'ailleurs en dehors de l'intelligence artificielle, dans le premier recours et dans l'orientation des patients, le corps infirmier est amené à jouer un rôle très important. D'ailleurs, quand on se réfère aux services, au fonctionnement des services dits d'urgence des hôpitaux, où en fait, il y a les urgences bien sûr, mais enfin il y a 80% des personnes qui se trouvent dans les services d'accueil des hôpitaux qui ne représentent pas un caractère urgent, la première personne que l'on rencontre, ce n'est même pas un interne des hôpitaux, c'est une infirmière ou une infirmière d'orientation, et qui, compte tenu de sa formation et de son expérience sur le terrain, voit quand même très rapidement si c'est une urgence qui requiert la présence immédiate d'un médecin, ça peut être l'interne, mais ça peut même être un chef de clinique et un assistant, c'est pas du tout un médecin ou voilà. Donc, je pense que dans le secteur libéral, on peut être dans une même situation, mais vous avez vu que la loi de Stéphanie Rist a quand même eu beaucoup de difficultés à arriver, puisque les organisations représentatives des professionnels de santé, y compris l'Ordre des médecins, vous voyez pas trop bien d'ailleurs ce que l'Ordre des médecins…
C'est une loi sur les transferts de tâches, hein.
Oui, exactement, c'est-à-dire…
Pour ceux qui ne connaisseraient pas la loi et qui nous écoutent.
Bien sûr, mais je trouve d'ailleurs personnellement que l'expression de transfert de tâches à quelque
de
chose…
Délégation, d'ailleurs, je crois.
Oui, délégation de tâches, oui, a un côté un peu condescendant, c'est-à-dire que le délégant consent à déléguer une tâche, ce qui laisse sous-entendre que c'est un subalterne, en fait, c'est pas… Or, en réalité, dans les pratiques professionnelles, et ça fait des années que je le dis, et avant même de m'intéresser au numérique, il faut travailler avec la notion d'une équipe de soins et je dirais même de prise en charge, parce que le secteur médico-social doit être intégré d'emblée. On voit bien que ce qui met le système de santé sous tension actuellement, ce sont en particulier les pathologies au long cours, avec des patients qui sont vieillissants et qui posent également des problèmes de prise en charge. On voit d'ailleurs que les hôpitaux, justement, où ils arrivent là, alors que ce n'est pas forcément une urgence, les renvoient à domicile sans avoir du tout résolu le problème, puisque quand cette personne un peu dépendante ou un peu âgée va de nouveau être rentrée chez elle, elle va se trouver isolée et son problème sanitaire n'aura pas été résolu. Donc, le numérique en santé, à mon avis, et les technologies en santé doivent permettre d'améliorer fonctionnement du système dans son ensemble. Mmh. Mais si on améliore le fonctionnement du système dans son ensemble, ça veut dire aussi que les personnes qui arrivent dans les services des urgences et qui n'ont pas à s'y trouver devraient être ailleurs. Donc il faut organiser la prise en charge, il faut organiser les soins au plus près des réalités territoriales. Il ne faut donc pas concevoir ça en chambre comme on a tendance, compte tenu, et vous le savez bien, de votre connaissance des cabinets ministériels, on a tendance à penser en chambre et à penser bien. D'ailleurs, l'idée est de faire le bonheur des gens, si je puis m'exprimer ainsi. Mais on ne fait pas le bonheur des gens sans leur demander d'abord ce qu'ils souhaitent. Or, très souvent, et vis-à-vis des professionnels de santé en matière de numérique, et tout récemment d'ailleurs encore, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai remis ma démission, on n'a pas demandé aux professionnels de santé quels étaient leurs besoins essentiels en matière de numérique, peut-être même en matière d'informatique. C'est arrivé après. Et comme on dit, on va co-construire. Cette expression est tout à fait un artifice, c'est-à-dire que les plans ont été faits, et après on dit aux constructeurs, c'est-à-dire ceux qui vont monter qui vont gâcher le béton et qui vont monter les murs, bon, maintenant c'est à vous de le faire. Donc, je pense qu'il vaut mieux éviter ce terme de co-construction qui
fait trompeur.
Oui, qui est tout à fait trompeur. Il vaut mieux que ce soit une activité participative, oui, à déjà la conception. Ethics by design, c'est finalement, quand on veut parler du numérique, c'est aussi quelque chose comme ça. Voilà.
Et alors, vous dites, on n'a pas suffisamment écouté les besoins des professionnels de santé. J'en profite pour préciser que quand on parle de tech en santé aujourd'hui, on parle à la fois de numérique, mais aussi de robotique et d'IA. Il y a l'ensemble des technologies, mais il n'y en a pas qu'une qui vient bouleverser un peu les pratiques. Quels sont, selon vous, aujourd'hui, justement, les besoins des professionnels de santé?
Leur premier besoin, c'est comme toujours, je pense qu'il est toujours mieux quand on veut faire quelque chose de commencer par le commencement. C'est-à-dire qu'il faut d'abord satisfaire les besoins informatiques primaires des professionnels de santé. Une chose a été faite à cet égard par la feuille de route du numérique de 2019 à 2022, Ma Santé 2022, sur le sujet de l'interopérabilité, qui est un sujet majeur. Il faut bien que les outils informatiques élémentaires communiquent entre eux, que ce soit d'ailleurs dans les hôpitaux, entre cliniques et hôpitaux, et puis entre les établissements de santé en général et le secteur libéral. Donc il y a eu un effort qui a été un effort important d'ailleurs, avec une dotation financière de 2 milliards d'euros, incluant le secteur médico-social, étalé sur 3 ans, si ma mémoire est bonne. Mais on s'aperçoit qu'il y a des bugs qui sont tout à fait considérables et que quand un professionnel de santé dont le temps est actuellement extrêmement minuté ouvre son ordinateur qui a été mis à jour, c'est-à-dire que l'éditeur de logiciels a touché les subsides relatifs à la mise à jour, il s'aperçoit que ça plante. Bon, il arrête, il reprend son patient. Et il recommence encore une deuxième fois avec le patient suivant. Ça bug encore. Il s'énerve de plus en plus parce que pendant ce temps-là, il essaie d'améliorer les choses et il perd du temps plutôt que d'en gagner. Or, le numérique doit faire gagner du temps, du temps proprement professionnel. Et à la troisième fois, s'il est persévérant, si ça bug encore, eh bien, il plante tout. Non seulement il plante tout, mais il va sur les réseaux sociaux pour se plaindre et par conséquent, ça fait immédiatement du bad buzz et c'est ce qui s'est produit. Moi, j'ai pu même dire à mes confrères, écoutez, plutôt que d'aller râler sur les réseaux sociaux, il vaut peut-être mieux que vous le signaliez à l'agence que j'avais alors, que je présidais. Un dispositif avait été mis en place qui s'appelle le dispositif Sentinelle pour faire remonter les choses du terrain. Mais pourquoi en est-on arrivé là? Je pense personnellement que c'est parce qu'on n'a pas demandé au terrain ce dont il avait besoin. Nous n'avons pas testé, vous voyez, je dis nous parce que je m'y implique, j'étais encore en France. Il n'y a pas eu de test suffisant pour dire bon, allez, ça marche, et donc on y va. C'était la philosophie de faire des petits pas rapides. La déléguée ministérielle au numérique en santé dans l'époque, c'était sa philosophie de faire des petits pas rapides, des petits pas rapides, des petits pas rapides. Mais il ne faut pas oublier que quand on fait des petits pas rapides, si la plus grande majorité des professionnels de santé ou bien n'y comprend rien ou bien s'intéresse à autre chose, eh bien, on se retrouve tout seul finalement face à un mur et une très grande inertie derrière. Donc il faut impérativement, c'est en cours de réadaptation si je puis dire, mais enfin ça fait désordre dans le panorama et ça n'est pas de cette façon que les professionnels de santé vont s'approprier en toute confiance les moyens numériques. Il y a un autre élément, c'est la sécurité. Donc l'interopérabilité, bien sûr, on vient d'en parler brièvement, la sécurité. À chaque fois qu'il y a une attaque des hôpitaux, et ça se produit encore malheureusement, bien évidemment ça plombe considérablement la confiance que peuvent avoir les professionnels de santé vis-à-vis des données personnelles des patients. Ça inquiète aussi les citoyens, mais les professionnels de santé sont quand même très imprégnés de l'idée du secret médical, avec parfois d'ailleurs des forces de résistance qui s'accrochent à cette idée de secret médical, mais enfin, ils sont même très attachés aux libertés publiques qui sont liées, enfin le secret médical en fait partie. Lorsqu'il y a une attaque, eh bien, les professionnels de santé, bien sûr, ne résistent finalement aussi au changement. Or, à cet égard, il n'y a eu aucun accompagnement, je suis un peu sévère, mais il n'y a eu aucun accompagnement de la communication publique. En termes simples, il faut parler clair, loyal et approprié. Il faut parler en termes simples et pas parler en termes techno. C'est d'ailleurs à cet égard que j'avais été recruté, si je puis dire, par le ministère. Mais ça n'a pas été réalisé. Donc, ces éléments-là sont des éléments importants. Et je me permettrai de rajouter, puisque vous m'aviez dit qu'il fallait distinguer éventuellement entre les médicaux et les non-médicaux. Je crois que c'est une mauvaise piste.
D'accord.
Parce que, comme je viens de vous le dire, il faut travailler dans la notion d'une équipe de soins et de prise en charge et ne pas faire de distinction entre les professionnels médicaux et les autres professions de santé. Je n'aime pas non plus les paramédicaux, parce que paramédicaux, ça a l'air de dire qu'au centre est l'astre solaire, c'est-à-dire les médecins, et autour, il y a des choses qui gravitent, mais enfin bon. Non, ce sont des professionnels de santé, avec ce qui ne remet pas du tout en cause la compétence, je dirais même le primat médical, puisque au total, c'est bien le médecin qui va prendre une décision, et c'est lui qui va engager sa responsabilité. Je ne dis pas que les autres professionnels de santé n'engagent pas la leur, mais enfin, la principale responsabilité dans une équipe de soins est celle du ou des médecins qui la constituent, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que c'est eux qui managent l'équipe. C'est encore une autre notion. Le management est la référence dans une équipe, et la personne référente d'une équipe et le management, c'est deux choses qui me semblent devoir être dissociées. Ce que les médecins ont actuellement beaucoup de peine à comprendre. Ils veulent bien qu'il y ait des délégations de tâches, comme on dit, et je pense que ça n'est pas une bonne expression parce que c'est un peu condescendant, mais que ce soit eux qui gardent le management. Je pense qu'ils commettent une erreur radicale, puisqu'ils se plaignent déjà de ne pas avoir suffisamment de temps qui est perdu dans des tâches administratives. Le management d'une équipe, pour qu'elle soit efficace, ça demande aussi beaucoup de temps et ça n'est pas spécifiquement du temps médical. Ma réponse a été peut-être un peu longue.
Mais... Non, c'est parfait, c'est parfait. Vous avez parlé de résistance au changement. En quoi est-ce que les techs en santé peuvent être une menace ou perçus comme telles pour les professionnels de santé? Est-ce qu'ils ont à perdre quelque chose?
Mais je pense qu'ils ont d'abord à perdre, et c'est comme ça qu'ils le perçoivent, ils ont d'abord à perdre leur primat, c'est-à-dire qui détient l'information, finalement détient le pouvoir. Ça s'applique d'ailleurs sur le plan politique, mais ça s'applique également dans tous les métiers. Or, les médecins actuellement, finalement, détiennent l'information. Le patient vient les voir, leur raconte ce qu'il a, couvert par le secret, leur en raconte parfois un peu plus, même sur leur vie privée, tout ça préservé par le secret. Et ils voient tout d'un coup arriver, même la notion d'équipe de soins a eu beaucoup de difficultés et en a encore d'ailleurs dans la vie réelle à s'imposer, puisque cette information, notamment avec l'informatisation des dossiers médicaux et l'existence d'un dossier médical partagé, cette information, elle va être partagée entre tous les membres qui constituent une équipe de soins, si le patient en est d'accord, bien évidemment. Mais ce qui expose le primat médical, puisque déjà le médecin va pouvoir constater que dans les informations ou les comptes rendus qu'il aura fait et qui vont être mis à la disposition de l'équipe, il peut y avoir une contestation de son interprétation de la situation par d'autres professionnels de santé. Bon, ça, ça peut se régler au sein de l'équipe, mais c'est déjà une exposition et ça n'est pas le médecin tout-puissant, le pouvoir médical qui fait sans qu'il s'exprime plus, voilà, il garde donc le pouvoir. La deuxième chose, et c'est celle-là qui est la plus importante, c'est que des machines intelligentes vont pouvoir arriver, on le voit pour tous les métiers qui manipulent les images. Alors bien sûr, il y a les radiologues, mais il y a également les dermatologues, tous ceux qui utilisent finalement pour faire un diagnostic l'image, hein, la photographie d'une lésion cutanée pour les dermatologues. Et tout d'un coup, on leur dit, mais la machine va être plus puissante que vous pour détecter des mélanomes et elle va être plus performante que le meilleur des dermatologues. Les dermatologues vont dire, bien sûr, mais enfin, c'est pas possible, c'est une machine. Je suis donc directement mis en cause puisque le patient n'est pas venu voir une machine, il est venu voir un dermatologue. Et je dois lui dire, on impose la réglementation, que je vais utiliser un moyen d'intelligence artificielle. Le patient n'a d'ailleurs pas à consentir, ce qui me paraît quand même être une bonne chose. C'est qu'on dit au patient, je vais vous ausculter. Ah non, je ne veux pas que vous m'auscultiez avec un stéthoscope. Enfin, on voit bien, on arriverait dans des aberrations. Donc, les médecins en particulier, là, se trouvent confrontés à une perte de leur primat et à une perte de leur statut. Et en plus, se greffe le problème, la situation, où des moyens d'intelligence artificielle vont pouvoir être utilisés par le patient, il ne faut pas exclure cette éventualité, et par d'autres professionnels de santé. Donc, ils se disent, mais enfin, c'est encore pire qu'Internet. Vous savez peut-être que quand quand Internet est arrivé, si je puis m'exprimer ainsi, les patients, avant même d'aller en consultation, voir leur médecin, aller sur Internet pour savoir un petit peu ce qu'ils avaient. Et il y avait vraiment une attitude du corps médical qui était très réactionnaire à cet égard. Il fallait quasiment fermer Internet, quoi. Donc, sur le plan de l'arrivée des technologies, c'est la même chose. Et il n'y a pas eu d'accompagnement, là encore, dans l'expression des politiques publiques. Alors, quand je dis dans l'expression des politiques publiques, l'université, elle est aussi un peu responsable de cette situation-là, puisqu'elle vient tout juste maintenant de prendre conscience que en développant d'ailleurs des DU, des DIU, des instituts, enfin, vraiment, il y a une floraison d'ailleurs actuellement de formation au numérique, mais qui arrive alors que les outils, ils sont déjà là, je veux dire, quoi. Et alors, on dit qu'il faut former les médecins au numérique, les médecins, les autres professionnels de santé, d'ailleurs. Il faut les former au numérique, indiscutablement, mais il faut aussi les former sur le plan de l'appréhension qu'ils peuvent avoir, ou sinon, je prends assez souvent cet exemple, les Canuts de Lyon se sont révoltés contre les métiers à tisser. Parce que, je l'avais publié d'ailleurs dans le dernier livre blanc que j'avais coordonné au Conseil national de l'Ordre sur les médecins et les patients dans le monde des data, des algorithmes et de l'intelligence artificielle, en disant qu'il fallait qu'il y ait cet accompagnement bienveillant de la part de des autorités sanitaires pour leur dire « mais les métiers ne vont pas disparaître, bien évidemment que non ». Mais le contenu et les contours des métiers vont changer. Alors, dans le secteur où la rémunération, parce que c'est aussi un facteur, il ne faut pas le masquer, où la rémunération est salariale dans les établissements publics de santé ou dans les centres de santé, les médecins sont salariés, c'est un facteur qui ne joue pas beaucoup parce que finalement, ils vont continuer de percevoir leur salaire. Mais dans le monde libéral, où c'est encore une rémunération à l'acte qui prévaut, on voit bien qu'il y a aussi des résistances au changement qui sont des résistances d'ordre matériel, même si elles s'affichent sous un autre angle, en considérant que oui, enfin bon, on ne va pas mettre ça en avant. Mais on va dire, par exemple, lorsque Stéphanie Rist a voulu faire passer sa loi, eh bien, certains ont dit, oui, enfin, qu'est-ce que c'est, les infirmiers en pratique avancée, elles n'ont pas fait des études de médecine, il va y avoir des erreurs de diagnostic. On peut transmettre ça également, transposer ça, pardon, sur le sujet de l'intelligence artificielle. Enfin, en tout cas, c'est vécu comme cela. Il faudrait donc qu'il y ait actuellement une grande action soutenue de communication vers les professionnels de santé, d'écouter leurs appréhensions, de les analyser, de les intégrer, de voir ensuite ce que l'on fait. Et dire que non, 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 mais non, mais non, il n'y aura pas de problème, etc., ils n'y croient pas.
Vous avez cité l'université, ce qui amène à poser la question de l'évolution des compétences, donc l'université. En quoi les techs en santé modifient les compétences requises par les professionnels? Et du coup, quelles sont les implications sur la formation, sur les évolutions souhaitables de la formation des professionnels, que ce soit la formation initiale et la formation continue? Je prends un exemple. Aujourd'hui, elle est quand même très centrée sur la mémorisation.
Bien sûr.
Dont on peut se dire que celle-ci aura moins d'importance à l'avenir, qu'elle sera en partie portée par les machines, et qu'inversement, des compétences comme le travail en équipe, le travail avec les machines, la relation avec les patients vont prendre plus d'importance. Est-ce que ce sont des choses qui ont déjà des incidences sur la façon dont les médecins et les autres professionnels de santé sont formés ou pas encore?
Ça n'en a pas encore. Moi, je me viens à ce propos-là un mot d'esprit un peu acide d'un professeur chef de service ancien, c'était, j'allais dire, mandarin de l'ancien temps médical, qui disait à propos d'un de ses agrégés, c'est une véritable encyclopédie. Le problème, c'est qu'elle n'est jamais ouverte à la bonne page. Et donc, il ne faut donc pas, avec les nouvelles technologies, effectivement, l'accumulation de savoir purement factuel semble moins nécessaire dès lors où la machine va pouvoir répondre à ces interrogations. Il faut que le métier de médecin, alors il faut voir ça bien sûr en fonction des différents métiers, puisqu'il y a quand même beaucoup de métiers différents en médecine, mais de faire une formation initiale dès même le recrutement, si je puis dire, pour les études de médecine, dès même le recrutement, avec une formation à l'esprit critique, ce qui n'est pas alors du tout le cas actuellement, puisque c'est la première année de médecine, c'est une absorption mécanique d'un certain nombre de connaissances considérées comme élémentaires, mais à juste titre, elles sont bien sûr élémentaires, quoique je me demande si pour faire de la dermatologie, il est absolument nécessaire de connaître l'anatomie abdominale ou bien le squelette. Le recrutement actuellement qui est fait dès les premières années de médecine est un recrutement de nature scientifique, essentiellement, ce qui me semble être une bonne chose et que un point de départ littéraire pour faire des études de médecine est plus adapté, puisque la médecine est devenue une science et non pas simplement un art ou un comportement avec plein d'empathie, etc. Parce qu'on peut aussi être plein d'empathie lorsqu'on ignore complètement ce qu'il faut faire. Donc il faut être attentif à cet aspect des choses et préserver bien sûr l'evidence-based medicine. Mais il n'y a pas que ça. Parce que l'evidence-based medicine finalement finirait par transformer les personnes malades en des misérables petits tas de secrets, voire plus d'ailleurs, une enveloppe de data, et que l'on ferait avec les data fonctionner, et qu'on dirait, voilà, il a un cancer du pancréas, le pauvre, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas, puisqu'il n'y a pas de thérapeutique actuellement éprouvée. Donc c'est là aussi, il doit y avoir bien sûr tout un accompagnement. Donc, il faut former à l'esprit critique et si on veut mettre en avant l'evidence-based medicine, il faut bien évidemment former également à la curiosité scientifique, à mettre en doute les certitudes, ça fait partie de la curiosité scientifique et il y a là, à cet égard, certainement, beaucoup de… Moi, j'ai des neveux et nièces qui ont passé le concours de première année de médecine. c'est un bachotage complet. Or, dès le début, il faut probablement refonder ça. Par ailleurs, je vois...
Alors, dans quel sens il faut le refonder ?
Il faut le refonder dès lors où...
Donc, vous avez dit plus d'esprit critique, plus de curiosité scientifique ?
Oui, parce que connaître des choses que l'on peut très facilement retrouver dans une documentation très rapide, parce qu'autrefois, si le médecin se mettait à feuilleter ses bouquins alors que le patient était devant lui, bon, ça ne fonctionnait pas très bien. Mais actuellement, avec l'intelligence artificielle, on voit bien que la machine, on peut déléguer des tâches à la machine qui apportera des réponses. On vient d'allonger, par exemple, vous avez peut-être vu ça dans l'actualité, la formation des médecins généralistes avec une année supplémentaire de docteurs juniors, c'est-à-dire qui ne sont pas encore complètement investis, pour faire une année de plus. Je me demande si, en fait, avec l'arrivée des nouvelles technologies, ce que je dis là, probablement iconoclaste, mais si avec l'arrivée de ces nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle en particulier, allonger en permanence des études pour apprendre des choses, c'est même avoir une vision complètement faussée, puisque un médecin, toute sa vie finalement, il va améliorer sa compétence, y compris d'ailleurs sa compétence en utilisant des moyens d'intelligence artificielle et en critiquant ce que va pouvoir lui répondre la machine. Si la machine lui dit voilà, la meilleure conduite à tenir c'est celle-là, puisqu'en gros on revient à ça, la machine n'ayant pas d'état d'âme, si le patient, la personne qui est en face du médecin dit je ne veux pas du tout entendre parler de ça, le médecin ne peut pas lui répondre écoutez, la machine a parlé, l'intelligence artificielle a parlé, c'est ça qu'on fait, ou si vous ne voulez pas, allez voir ailleurs. Il faut bien que l'humanisme qui va se trouver, et c'est là qu'on va pouvoir retrouver l'humain dans la technologie, et à partir d'une médecine de précision, moi je fais la distinction, entre une médecine de précision qu'apporte l'intelligence artificielle, une médecine personnalisée à la personnalité aussi du patient. Et quand on voit actuellement les tourments que le pays travaille dans l'actualité brûlante de ces jours derniers, on voit quand même bien qu'il y a beaucoup de citoyens qui sont laissés sur le bord de la route. Et il n'y a pas que dans les banlieues. On voit bien qu'en fonction de l'âge des personnes, en fonction de la ruralité où il n'y a pas vraiment de banlieue, moi je suis allé récemment faire un exposé devant une assemblée des maires à Albi, qui a une très belle cathédrale d'ailleurs, mais enfin qui n'a plus de médecin. Les 15 ou 17% d'électronisme qui frappe la population, les meilleurs ambassadeurs vis-à-vis du numérique dans son sens large, hein, qu'on a évoqué tout à l'heure, ce seront bien évidemment les professionnels de santé. Donc si les professionnels de santé ne s'approprient pas et n'adoptent pas les innovations en santé, eh bien celles-ci malheureusement stagneront.
D'accord. Est-ce que hashtag le plus important avait porté une proposition un peu iconoclaste, comme vous dites, qui était de réduire la durée, non pas d'allonger, mais de réduire la durée des études médicales pour réinvestir ce temps-là dans la formation continue. Parce qu'effectivement, avec l'idée qu'il y a peut-être moins de choses à savoir, en revanche, que ce savoir devient plus facilement caduque et qu'inversement, il y a un besoin de formation continue qui est plus important et donc de transférer une partie des années d'études en formation continue. Est-ce que vous iriez jusque-là ?
Je pense en tout cas que c'est une piste qui est à creuser. Quand j'étais encore au Conseil national de l'Ordre, j'étais un partisan de la certification périodique, c'est-à-dire qu'un médecin, il est diplômé de la faculté, il est donc inscrit à l'ordre, c'est pas l'ordre qui, c'est la faculté, l'université qui décide de sa compétence. Donc il est compétent, mais au bout, à la vitesse où vont les choses, au bout de 5 ans, il peut devenir totalement incompétent, puisque s'il ne s'approprie pas finalement les nouveaux moyens d'arriver à un diagnostic, de définir une thérapeutique. Donc la voie qui consisterait à dire il faut peut-être réduire, limiter, enfin ne pas augmenter en tout cas la formation initiale dès lors où un certain nombre de compétences peuvent être finalement dédiées à une machine froide, c'est pas la peine qu'il se surcharge l'esprit comme un pic de la Mirandole qui voudrait tout savoir, tout savoir, tout savoir sur tout, mais en revanche imposer inscrire dans les habitudes qu'il doit y avoir une formation permanente. Alors c'est entré quand même dans les mœurs, enfin, c'est pas encore opérationnel, mais il doit y avoir une certification périodique des professionnels de santé de façon à s'assurer des professionnels de santé, parce que les médecins au départ disaient que les médecins, moi je me souviens avoir dit mais pourquoi que les médecins, c'est l'ensemble des professionnels de santé, les autres ordres de santé avaient continué, mais on voit bien actuellement que la période n'est pas très favorable à ce développement, puisque les professionnels de santé font défaut et sont déjà submergés. Donc comment trouver? On doit bien trouver quand même le moyen, mais si on dit aux professionnels de santé…
Du temps pour la formation continue.
Il faut leur trouver du temps, et puis on dit, puis attention, hein, si vous n'êtes pas certifié, ben vous ne pouvez plus exercer. Ils vont éclater de rire, ils vont dire, puisque c'est comme ça, on ne va pas faire de formation continue. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils continueront d'exercer, puisqu'on en manque. Donc il doit y avoir une prise en considération très globale de la chose, par les politiques bien sûr, mais en réunissant les jeunes professionnels de santé et les organisations qui les représentent, qui n'ont pas du tout la même vision du monde dans lequel ils vont exercer que les anciens, qu'ils ont d'ailleurs une appétence pour les technologies qui sont très développées, beaucoup plus développées en tout cas, et ils peuvent être, comme vous l'aviez dit d'ailleurs dans une contribution, dans une publication, dans un rapport, que les jeunes peuvent aussi finalement accompagner les plus âgés dans le cadre d'une formation confraternelle, donc ils seraient accompagnés. Donc il faut, à mon sens…
C'est le mentorat inversé, oui.
Le mentorat inversé. Donc il y a toute une réflexion à conduire avec l'université, bien sûr, mais également les organisations représentatives, des professionnels libéraux, je pense aux professionnels libéraux en particulier, et ça devrait être possible par une action interministérielle d'ailleurs entre le ministère, entre le MESRI et le ministère de la Santé.
D'accord. Si vous aviez une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui pour mieux accompagner les professionnels de santé dans leurs usages des techs en santé?
Alors, je vais me réfugier derrière la présidence de la République, puisque le président de la République lui-même avait dit dans un de ses nombreux meetings récemment, que quand, devant la crise hospitalière, il fallait que la gouvernance des hôpitaux soit bicéphale, c'est-à-dire qu'il y ait un directeur général d'une structure et un médecin. On avait dit que c'était un médecin, pas un professionnel de santé, moi j'y souscris assez volontiers. Donc je pense que s'il y avait une baguette magique, c'est que je dirais qu'en matière de numérique, il faut qu'il y ait dans la gouvernance, un ou des professionnels de santé, mais j'en ai fait l'amère expérience, puisque j'étais président de l'agence, qui était un titre d'apparat en réalité, mais je n'étais pas dans la gouvernance. La gouvernance se passait la DNS, la CNAM, sans la présence de professionnels de santé. Je crois que c'est une erreur stratégique et politique de ne pas les avoir associés. À chacun ses compétences, j'entends. Les hauts fonctionnaires pour lesquels vous en êtes un d'ailleurs. J'ai beaucoup de respect pour les compétences des hauts fonctionnaires. Mais les hauts fonctionnaires, ils n'ont pas des compétences liées à un exercice concret d'un autre métier. Alors bien sûr, il peut y avoir des conseillers. Ok. Je pense que associer en tout cas le plus en amont possible dès la conception. Vraiment, le coup de baguette magique, c'est ça. Donc, comme je n'ai pas pu faire fonctionner la baguette magique, je me suis en allé.
D'accord. Et qu'est-ce que vous auriez aimé faire que vous n'avez pas pu faire, typiquement? Est-ce qu'il y a des messages que vous portiez qui n'ont pas été entendus?
Oui, globalement, les messages que j'ai portés n'ont pas été entendus. Le premier message, c'est que j'ai dit dès le départ que faire d'abord de la techno avec l'identifiant national de santé, le DMP, tout ça, c'était nécessaire. Mais qu'il fallait d'emblée, dès le départ, il fallait embarquer les professionnels de santé et les patients. Ça aurait peut-être demandé davantage de temps, mais il s'agit là aussi de manager le développement, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça parte dans des discours qui n'en finissent plus et qu'on fasse des réunions, puis une autre réunion. Non, il faut qu'il y ait un leader, un chef d'équipe, qui ultimement d'ailleurs est le ministre chargé des choses et qui délègue à qui il veut sa représentation. Bon, ça n'a pas été fait, puisqu'il fallait faire d'abord la techno, vous connaissez la maison, il fallait d'abord faire les fondations. Bon, on a fait les fondations sans demander à personne si, enfin personne si, mais pas, on a demandé à des ingénieurs, qui sont indispensables. Mais il aurait fallu associer d'emblée une représentation des professionnels de santé. Nous sommes donc, c'est une expression que j'ai beaucoup utilisée, au milieu du guet. C'est-à-dire que les aspects techno, ils ont été à peu près résolus malgré les bugs là, que j'ai exprimés tout à l'heure, mais on ne voit aucune appropriation significative de la part des professionnels de santé. Et comme toujours, vous le savez bien, les états-majors, plus ils sont dans la difficulté, plus ils produisent des communiqués en disant « ça y est, ça avance, on va gagner la guerre ». Je pense que ce n'est pas encore gagné, et ce qui peut finalement être un facteur bloquant, c'est l'inertie. Or, on connaît l'inertie en matière de DMP, puisque cette inertie remonte à 2004, si ma mémoire est bonne.
Ça va bientôt faire 20 ans, oui.
Oui, ça fait 20 ans. Donc, il faut quand même tirer des leçons des échecs. Je pense que les leçons des échecs, alors que le dossier pharmaceutique fonctionne. Alors, effectivement, entre un DMP et un dossier pharmaceutique, c'est quand même pas la même chose. Un dossier pharmaceutique, c'est assez simple. Un dossier médical, c'est plus compliqué. Quand même.
Mais le dossier pharmaceutique a été porté par les professionnels eux-mêmes.
Voilà.
A été porté par l'ordre.
Voilà. Alors, que ce soit l'ordre ou pas l'ordre, ça a été porté, effectivement, par l'ordre, par Isabelle Adnaud en particulier, qui est maintenant membre du Collège de la Haute Autorité de Santé. Donc, il y a vraiment quelque chose de très concret, très, très réaliste et très utile pour la profession, pour les patients, je n'en sais trop rien, mais voilà. Donc, il faut associer d'emblée à la gouvernance quand j'étais à l'ordre d'ailleurs, le conseil avait publié un communiqué à cet égard en disant qu'il fallait associer les professionnels de santé dès la conception, d'abord parce que ça les impliquera, et puis qu'ensuite la personne qui les représente, ben, elle a aussi des comptes à rendre finalement. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je suis parti, puisque moi, on me téléphonait beaucoup en disant « alors qu'est-ce que tu fous, ça ne marche pas ». Je n'ai aucun levier à faire, donc ça c'est anecdotique, je veux dire, ce n'est pas ma personne qui compte, mais c'est pour montrer où se trouve, à mon avis, l'erreur. Et j'espère que cette erreur, qu'il n'est pas encore trop tard pour remédier à ces erreurs commises. Mais je pense que le bilan fait actuellement, à date, au milieu du guet, n'est pas très encourageant sur la mobilisation des professionnels. Alors l'autre élément, il y a les instances représentatives des professionnels. Elles sont toutes jalouses les unes des autres. Et par conséquent, ça devient très rapidement une véritable tour de Babel, sauf quand elles se fédèrent contre. Donc, une des choses à faire, c'est d'éviter qu'elles ne se fédèrent contre. Et donc, il faut aller vers elles, il faut les écouter, il faut en tout cas ne pas non plus les humilier. Ça, c'est les organisations représentatives. Mais les organisations représentatives, c'est vrai dans tous les domaines d'ailleurs, représentent à peu près 20% des corps professionnels. Quand on regarde les élections aux ordres ou les élections aux URPS pour le secteur libéral, ça doit être à peu près pareil d'ailleurs pour le secteur hospitalier, il faut aussi aller vers les professionnels de terrain. Et donc, j'avais obtenu d'ailleurs que je sois chargé avec le vice-président qui a également démissionné d'une feuille de route pour réunir un cercle des professionnels. Et nous avions réuni un cercle des professionnels du secteur sanitaire et du secteur médico-social, en commençant par une trentaine de membres, avec des hommes, des femmes, des métiers différents, bien évidemment, et en essayant, et notre idée était bien sûr d'agrandir encore ce cercle, mais il fallait commencer petit pour pas que ça devienne un véritable forum ou une agora où rien n'en serait sorti. Immédiatement, la puissance publique a estimé qu'il fallait quand même nommer aussi peut-être un fonctionnaire du ministère qui serait chargé de surveiller tout ça. Voilà. Où on confie une mission à quelqu'un et on attend qu'il ait rempli sa mission et on satisfait à ses besoins pour remplir cette mission, mais quelle est l'utilité de le doubler d'emblée par une personne de l'administration centrale ? Ça, vous n'êtes pas obligé de le reproduire, hein, bien sûr.
Ce que vous racontez me fait malheureusement penser à ce qui s'est passé en matière d'éducation, où le numérique en éducation a beaucoup été déployé à partir des matériels, des devices que l'État et les collectivités locales ont acheté, des ordinateurs, des tablettes, mais on peut investir dans l'accompagnement des enseignants. Et que du coup, on s'est retrouvé, toute proportion gardée, hein, c'est évidemment caricatural comme vision, mais avec des équipements, mais qui étaient peu utilisés parce qu'on n'avait pas pris en compte, évidemment, le fait que les enseignants devaient se les approprier, enfin, devaient, comment faire en sorte qu'ils se les approprient, justement. Et là, proportion gardée, il y a un peu la même histoire, hein, dans la santé, où on a beaucoup investi dans la tech et peu dans ceux qui les sont censés l'utiliser et qui choisissent ou non de les utiliser, qui sont les professionnels.
Oui, et regardez, je vais prendre l'exemple qui n'est plus une start-up, qui est une licorne et qui est même devenue maintenant tout à fait incontournable, qui est Doctolib. On note d'ailleurs que c'est une parfaite réussite, puisque actuellement même les citoyens ne regardent plus l'annuaire, même en ligne, ils vont chez Doctolib, ils disent « si, il y a qu'à chercher sur Doctolib », alors que Doctolib n'est quand même pas l'ensemble des professionnels de santé. Lorsqu'ils ont voulu évoluer en passant du simple prise de rendez-vous en ligne, qui était déjà d'ailleurs une très belle réussite, pour construire un logiciel de professionnels de santé, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réuni des professionnels de santé. Je le sais très bien, puisque je venais de quitter l'ordre et j'avais même été approché à ce moment-là pour présider ce machin-là. J'aurais mieux fait d'y aller, d'ailleurs, parce que j'aurais été plus efficace. Ça a marché. Ils ont actuellement un logiciel qui répond absolument aux besoins du terrain, puisque ce sont des professionnels de santé, des médecins en particulier, d'ailleurs, qui l'ont exprimé. Donc, on voit bien que, avec l'exemple des enseignants, si il y avait eu la même chose pour la construction du numérique dans l'enseignement, ça aurait probablement mieux fonctionné. Je ne sais pas pourquoi l'État a une telle suspicion vis-à-vis de l'association dans la gouvernance, à différents niveaux, bien sûr, des utilisateurs. Je n'arrive pas à comprendre la raison.
D'accord. Écoutez, cher Jacques Lucas, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce que vous avez des derniers messages à faire passer que vous n'auriez pas abordé
On pourrait en parler pendant très longtemps. C'est aussi le rôle des citoyens, la présence des citoyens. Alors, ça peut être des citoyens comme les associations. Il ne faut pas les négliger. Je pense aussi que quand on veut aller vers, il faut aller le plus près possible des réalités de terrain. Il y a d'ailleurs une ministre qui est chargée des professionnels de santé et des territoires. Donc, on voit bien qu'il faut aller, mais il faut aller au plus près. Et je pense qu'à cet égard, je n'ai pas été écouté non plus là-dessus, c'est que les maires ont vraiment un rôle très important à jouer. Alors que ce soit au niveau de communautés de communes ou au niveau des mairies, au niveau des arrondissements, lorsque ce sont des très grandes villes, bon, il faut voir ça. mais que les maires sont vraiment en proximité, du coup, avec les citoyens. Et en matière de santé, on voit bien qu'actuellement, compte tenu des déserts médicaux, les maires essaient de se décarcasser pour attirer des médecins. Mais les médecins ne vont pas aller dans un désert où il n'y a pas de service public, où il n'y a pas de cinéma, où il n'y a pas, enfin bref, pour ce qui concerne leur vie privée. Il faut donc restructurer au niveau des territoires, avec des moyens numériques, des maisons de santé pluriprofessionnelles qui pourraient avoir un gros centre qui serait dans la grande ville, en quelque sorte, et qui aurait des pseudopodes dans les petites villes des alentours où les médecins iraient, ou les autres professionnels de santé aussi, iraient pour 24 heures, ou même moins de 24 heures, en prenant leur voiture, parce que c'est à 45 minutes le matin, 45 minutes le soir. Ce ne seraient pas toujours les mêmes, bien évidemment. Il pourrait y avoir une rotation. Et pourquoi les moyens numériques? Puisqu'il faut bien que ces structures-là aient un dossier unique de la structure. Je ne parle pas du DMP, là, je parle de la structure qui serait chez un hébergeur de données de santé qui serait dans la grande structure de la grande ville, et que les différents médecins qui vont autour, et que les maires, quand on leur parle de cela, ils disent « Ah ben oui, ce serait bien », et ça ne bouge pas beaucoup. Alors, sauf peut-être en Occitanie, où Carole Delga a essayé de faire quelque chose qui se rapprocherait un peu de ça. Il y a eu d'autres tendances dans les Hauts-de-France. Xavier Bertrand avait essayé de déployer aussi la télémédecine avec des cabines. En Île-de-France, ça s'est réalisé aussi. Il faut donc aller sur le terrain.
Eh bien, écoutez, Jacques Lucas, un très grand merci à vous. Pour terminer quand même sur une note positive, samedi 1er juillet, donc il y a deux jours, la France est devenue le premier pays à prendre en charge la télésurveillance médicalisée, télésurveillance médicale. C'est en partie à votre initiative.
Je m'étais d'ailleurs un peu agacé aussi là-dessus, parce qu'il y avait eu des grandes discussions avec le ministère à propos des sous, sur ce que derrière, il y a bien sûr tout les industriels, et qu'il faut bien évidemment les rémunérer. Et je m'étais pensé à ce moment-là aux pacemakers et aux défibrillateurs. Je ne sais pas, vous n'étiez plus, je pense, au ministère. Mm-hmm. Et quand les défibrillateurs ont été implantés, il fallait surveiller la prothèse, qui était une prothèse intelligente, qui était un dispositif médical implanté et plus intelligent, puisqu'il communiquait les données en Allemagne en particulier pour certaines marques. Ça a mis un temps fou pour arriver à définir avec la CNAM, qui a toujours été très frileuse, parce qu'elle a les yeux fixés sur son déficit, qui a toujours été très frileuse à cet égard. Et moi, je suis très heureux que la télésurveillance soit enfin implantée pour des maladies qui sont quand même, enfin l'insuffisance cardiaque, c'est un fléau de santé publique. On pourra en trouver d'autres, même des choses qui paraissent beaucoup plus simples, mais qui font pourtant le lit de l'insuffisance cardiaque, je pense à l'hypertension artérielle en particulier, où il peut y avoir là aussi des dispositifs de surveillance. Oui, ça c'est une belle...
C'est une belle... Et la France est la première en Europe, c'est une belle avancée. Eh bien, écoutez, infiniment merci à vous et à très bientôt peut-être.
À très bientôt.
Et bonne continuation.
Votre épreuve en quelque sorte.
C'est ça. Merci à vous.
J'ai vraiment été très heureux de vous revoir, vraiment.
Eh bien, moi de même. Merci.
À bientôt. Si.
Au revoir, Jacques.
Au revoir.
Au revoir. We'll be right back.